Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voici l'émission des Quenouilles, l'émission du juin. En fait, nous sommes encore confinés quelque part, chacune dans nos cuisines et salons, donc on se parle en Zoom. Les Quenouilles, c'est l'émission sur Radio Panique, le premier mercredi du mois et rediffusée le troisième samedi du mois. Alors là, on est quelques quenouilles autour d'une table virtuelle qui allons tracer des points et des lignes et des silences et des voix claires, espérons-le. Avec les conditions techniques, merci à Quenouille Octavie pour ça, autour du mot ensorcellement. Et ça fait plus d'un an, en fait, que ce mot nous guettait. Alors voilà, qui nous ensorcelle? Qui aimons-nous ensorceler? Et qui laissons-nous nous ensorceler? Je vais débuter avec une de nos aïeules, nous, peut-être sorcières, ou peut-être prêtresses, ou peut-être autre terme que nous pourrions discuter. Je vais évoquer une de nos aïeules, donc Circé, dans une version un petit peu adaptée d'Homère. Après bien des aventures, Ulysse et ses compagnons abordent l'île de Circé, une terrible magicienne. Les compagnons d'Ulysse partent en reconnaissance. Dans une vallée, ils ont trouvé la maison de Circé, construite en pierre polie dans un lieu découvert. Tout autour vivaient des loups, montagnards et des lions que Circé avait ensorcelés avec des drogues nuisibles. Au lieu de se jeter sur mes hommes, ils se sont approchés d'eux et les ont caressés de leur longue queue, comme les chiens entourent et caressent leur maître lorsqu'il revient d'un banquet, car il leur rapporte toujours des douceurs qui plaisent à leur cœur. De même, les loups aux griffes robustes et les lions entouraient caressant mes compagnons. Eux, pris de peur à la vue de ces terribles bêtes énormes, se sont arrêtés devant la porte de la déesse aux belles tresses et ont entendu Circé chanter à l'intérieur d'une belle voix. Elle tissait une grande toile immortelle, comme sont les ouvrages légers, gracieux et brillants des déesses. Ils se sont fait entendre en appelant. Elle est sortie aussitôt, a ouvert les portes brillantes et les a invités. Tous, avec imprudence, l'ont suivie. Eurylope est restée seule dehors car il soupçonnait le piège. Elle les a fait entrer, les a fait asseoir sur des sièges et des fauteuils et a mixé pour eux du fromage, de la farine et du miel frais avec le vin de Pramnos. Elle a mélangé à cette mixture des drogues aux effets redoutables pour leur faire oublier complètement leur terre paternelle. Elle leur a offert cette potion et ils l'ont bu d'un trait. Aussitôt, elle les a frappés d'une baguette et les a enfermés dans la porcherie. Ils avaient la tête, la voix, les corps et les soies du porc, mais leur intelligence était restée la même qu'auparavant. Aussi pleuraient-ils ainsi d'être enfermés. Alors, Eurylope est revenue vers le noir navire rapide pour nous donner des nouvelles de nos compagnons et annoncer leur triste sort. Ulysse décide alors de se rendre chez Circé pour délivrer ses compagnons. J'étais sur le point d'arriver à la grande demeure de Circé aux multiples drogues quand Hermès à la baguette d'or est venu à ma rencontre au moment où j'approchais de la demeure. Il avait pris l'apparence d'un jeune homme dont la barbe commence à pousser et qui est dans toute la grâce de l'adolescence. Il m'a pris la main et m'a dit « Je vais te dire tous les projets pernicieux de Circé. Elle va te préparer une portion où elle jettera des drogues, mais elle ne pourra pas t'ensorceler par ce moyen, car la remarquable drogue que je vais te donner ne le permettra pas. Je vais te dire tous les détails. Au moment où Circé te frappera de sa longue baguette, tire du long de ta cuisse ton épée pointue et jette-toi sur elle, comme si tu voulais la tuer. » Après ces paroles, le dieu aux rayons lumineux m'a fourni la drogue qu'il a arrachée de terre. Moi, je me suis dirigée vers la demeure de Circé. Tout en marchant, j'avais le cœur qui bouillonnait. Je me suis arrêtée devant la porte de la déesse aux belles tresses et postée là, j'ai poussé un cri. Elle a entendu ma voix et est sortie aussitôt et a ouvert les portes brillantes et m'a invitée. Je l'ai suivie, le cœur affligé. Elle m'a fait entrer puis asseoir sur un beau fauteuil à clous d'argent, bien travaillé. Un escabeau était posé sous mes pieds. Aussitôt, elle a préparé dans une coupe d'or la potion que je devais boire et le cœur plein de mauvaises pensées, elle y a jeté la drogue. Elle me l'a offerte et j'ai bu d'un trait sans que le charme agisse. Elle m'a alors frappé de sa baguette et m'a dit en détachant ses mots « Va maintenant dans la porcherie coucher avec tes compagnons. » Ainsi parla-t-elle. Mais moi, tirant mon épée pointue du long de ma cuisse, je me suis jetée sur elle comme si je voulais la tuer. Alors elle a poussé un grand cri, s'est effondrée et a saisi mes genoux. Circé demande à Ulysse son identité pour lui, puis lui propose d'aller au lit avec elle. Ulysse lui fait jurer de ne rien tenter contre elle. La déesse l'accueille alors avec hospitalité et lui offre un repas, mais Ulysse pense à ses compagnons. Circé, quel homme, s'il a le cœur juste, supporterait d'absorber nourriture ou boisson avant d'avoir délivré ses compagnons et de les avoir vus de ses propres yeux? Si c'est de bon cœur que tu veux que je boive et que je mange, délivre mes fidèles compagnons pour que je les voie de mes yeux. » Ainsi parlais-je. Circé a traversé la salle, sa baguette à la main, et a ouvert les portes de la porcherie. Elle en a fait sortir mes compagnons qui ressemblaient à des porcs gras de 9 ans. Ils se sont mis debout devant elle, passant parmi eux. Elle a frotté chacun avec une nouvelle drogue. Aussi, de leurs membres sont tombés les poils qu'avait fait pousser la drogue funeste donnée par la véritable Circé. Ils sont redevenus des hommes, plus jeunes qu'avant, beaucoup plus beaux et plus grands à voir. Ils m'ont reconnu, m'ont tous serré la main. Une douce envie de pleurer les a saisis tous ensemble, et la demeure s'est mise à résonner leurs pleurs.
Salut Teresa.
Salut.
Tu vas bien?
Oui, ça va.
Écoute, j'avais très envie de te retrouver pour te demander vraiment comment tu vas, parce que pendant la dernière émission des Quenouilles, avec le mot-clé « rogner », on a rogné ton interview.
Oui. Je sais pas, j'écoute. T'as des questions pour moi?
J'ai tout le temps des questions pour toi, Teresa, parce que je sais que, bon, comme t'es venue souvent aux Quenouilles, il y a déjà ça qui est chouette, d'avoir une Quenouille qui revient, qui re-raconte des choses.
Oui.
Et puis aussi, il y a le confinement et le fait que toi, tu fasses en ce moment un stage d'aide-soignante où les choses ont été beaucoup changées par rapport au confinement.
Oui.
Puis tu as été malade et tu as commencé à nous raconter... pendant l'émission des Quenouilles, et puis on n'a pas pu terminer. Alors c'est un peu comme tous les livres qu'on commence et qu'on n'arrive pas à terminer. On a envie de savoir la suite, quoi.
Ben, je suis là et le confinement, ça se passe pas mal parce que je ne suis pas trop seule. Ben, je suis un peu entourée des gens, mais ce qui m'a un peu pas plu, c'est que je ne peux plus aller au stage. Donc... on m'a interdit de retourner à cause du confinement, que de rester à la maison parce qu'il y avait le coronavirus et tout ça. Après, j'étais tombée malade pendant une semaine. Mais maintenant, ça va. Et donc, je crois que c'est à propos de comme je ne pars plus au stage, donc ça m'a un peu bouleversée parce que c'est pas normal, quoi, que je puisse rester à la maison et c'est un ennui en plus. Donc, c'est ça, quoi. Donc, maintenant, ça va un peu mieux et... j'espère que je vais retourner au stage.
Ce que tu m'avais dit aussi, et c'est pour ça que j'ai regretté de ne pas avoir pu parler avec toi longtemps, c'est que tu faisais le stage pour devenir aide-soignante, et puis à un moment, on t'a dit, ben, en fait, tu vas plus pouvoir aller au contact des personnes, tu vas faire le ménage. Et moi, j'avais trouvé ça... Le terme choquant n'est peut-être pas bon, mais je me disais, c'est quand même bizarre d'utiliser... Alors, c'est vrai que je crois que beaucoup de gens ont dû changer un peu leur métier dans le secteur de la santé, mais je voulais savoir comment toi tu l'avais vécu et comment ça s'est passé exactement.
Lorsqu'on m'a dit que je devrais faire le ménage, être femme de ménage, ben, c'est mon assistante de l'école qui me l'avait annoncé un soir comme ça. Elle me l'a dit, ben, ça ne m'a pas plu, mais je me suis dit, bon, au lieu de rester à la maison et ne rien faire, je vais essayer et apprendre et voir comment ça se passe parce que c'est pas mon domaine et j'ai pas du tout aimé. Donc je suis allée et puis voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire et on m'a dit que oui, je peux pas être en contact avec des enfants parce que sinon peut-être je peux leur transmettre le virus et eux aussi peuvent aussi me transmettre le virus. Donc voilà, j'ai dû commencer à apprendre encore comment on fait et tout. Il y avait une aide ménagère à côté de moi. Celle-ci se connaît mieux parce que c'est son domaine. Donc elle était là avec moi, elle m'a montré comment ça se passait, mais ça se passait pas très bien parce qu'on s'entendait pas. En plus, la langue, je me débrouille, je parle pas trop bien parce que il y a des mots que je comprends pas. Donc ça l'énervait. En plus, elle disait ça aussi au boss, que oui, voilà, je comprends pas, j'ai laissé des choses. J'ai dit, bah, écoute, moi ça me plaît pas parce que je peux pas faire ce domaine. Et on m'a dit que oui, voilà, de rester. Que maintenant, comme c'est le confinement et tout ça à cause du corona, de rester. Donc, je suis restée et voilà.
Oui, parce qu'elle te parlait en flamand, ça se passe en Flandre, c'est ça. Donc, et tes études, les cours, ça se passe en quelle langue?
C'est en irlandais. En irlandais, et parfois, si tu comprends pas, on t'explique un peu en français. Mais le stage, tu peux pas parler français là-bas. Tu dois parler le néerlandais, c'est chez les Flamands, Hildenberg. Et l'école, c'est juste ici à Don Bosco, à Saint-Peters, au Louvre Saint-Pierre. Donc, c'est au stage qu'on peut juste parler en néerlandais, mais à l'école, bon, ça va. Si tu comprends pas, il y a des profs qui parlent français et puis t'expliquent aussi en même temps.
Et donc, du coup, ça fait combien de semaines que tu restes chez toi?
Ça fait maintenant depuis le 24 avril, avant le Ramadan. Donc, ça fait maintenant, je sais pas, 2 semaines peut-être.
Et tu es tombé malade après avoir. Parce que tu nous as expliqué aussi, quand tu as parlé au Quenouille, tu étais encore malade. Là, j'ai l'impression que tu vas mieux, donc ça, c'est chouette. Mais parce que moi, ça m'intéresse assez de parler des liens entre l'âme et le corps pendant le coronavirus. Parce que tu vois, c'est une situation inédite, on ne peut plus faire comme on veut, tes études, ça a été changé, on t'a même proposé de faire un autre métier qui n'était pas le tien. Donc. Je me demandais dans quelle mesure tu as l'impression que tu as été malade parce que tu as pris trop de stress ou c'est ton corps qui n'en pouvait plus. C'est arrivé après la fin après que tu sois resté à la maison, que tu sois malade.
Non. Là, quand on m'avait annoncé, j'étais pas bien aussi. Mais j'étais pas malade. J'étais juste mentalement pas bien parce que j'avais des larmes aux yeux et tout. Mais maintenant, le moment du Ramadan, le Ramadan c'était le 24, je pense. 24 comme ça, avril. Donc, c'est le 27 que je suis tombée malade, que j'ai eu des maux de tête, tout ça, que je suis tombée malade. Mais là, je pense que aussi, ça a dû aussi le fait qu'on m'a dit aussi de rester à la maison, et le fait aussi qu'on m'a changé aussi de métier, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Donc, c'était le stress en même temps, avec le Ramadan, comme je jeûnais et tout, ça a un peu tout fait que je suis tombée malade. Mais sinon, ça va maintenant.
Ouais, je trouve que tu es une battante parce que j'ai vu passer sur Facebook que en ce moment tu faisais des desserts. Et d'ailleurs, moi, je les ai goûtés. C'est super bon. Donc, tu t'es pas les. Bon, d'abord, tu as guéri. Et puis, j'aimerais que tu nous parles un peu de ces desserts que tu proposes, la recette. Voilà, parce que c'est chouette d'essayer de faire autre chose quand on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire, quoi.
Oui, pour le dessert, je ne l'ai pas fait comme ça en claquement de doigts. J'avais d'abord préparé ça pour les amis, mes potes, mes copains et tout ça, je les ai préparé ça. Ben, ils ont mangé, ils ont dit que c'était bon. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire mon propre business? Pourquoi pas essayer de voir, d'oser, de faire quelque chose? Parce que dans la vie, il faut oser. Donc, j'ai dit, je vais oser. Et puis, voilà, je vais un peu publier ça sur Facebook, WhatsApp. Et puis, voir, peut-être les gens vont commencer à venir pour acheter. Donc, je dois dire ce que j'ai, comment j'ai fait ou.
Bah, tu peux donner la recette, comme ça on sait un peu ce que c'est.
Ah ouais, mais je vais pas dire tout parce qu'il y a un petit secret que je dis pas. Chaque recette a son secret, donc ça je peux pas le dire. Ben, pour la recette, il y a le céréales, le mil, le yaourt, le sucre vanille. Et tu peux aussi mettre aussi l'essence arôme. Je sais pas comment vous appelez ça. L'essence là,
De
c'est
l'arôme.
de oui, l'arôme banane ou vanille, ça dépend. Après, tu peux mettre l'ananas ou raisin dedans. Oui. Et puis, le mil, d'abord, tu mets dans l'eau chaude. Tu mets au micro-ondes. Donc, après, ça va devenir un peu. C'était dur avant, mais maintenant, ça va un peu être
Ramolli.
ramolli. Après, tu prends le yaourt, tu mets dans un autre bocal. Tu mets le yaourt dedans, sucre vanille, arôme. Tu mets aussi, je dois réfléchir, de l'ananas. Puis après, tu mets, si tu veux, un tout petit peu d'eau, et puis tu mélanges en même temps avec le fouet. Puis tu prends le céréale de mil, tu mélanges dedans, et puis tu mets au frais. C'est bon, c'est facile à faire, quoi.
Et donc la dernière fois que je t'ai vu avant aujourd'hui, tu faisais des livraisons de tes desserts. Donc là aussi, moi j'étais assez admirative parce que Tandis que, bon, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vachement... on se sent beaucoup mieux quand on a une mission. Je parlais de ça ce matin avec une autre personne que j'ai interviewée pour les quenouilles qui s'appelle Maria. Et je lui disais, écoute, moi, chaque fois que, depuis le début du confinement, j'ai eu l'impression que ce que je faisais était utile, je me sentais mieux. Donc, je te vois arriver. Toi, tu étais en train de faire tes livraisons de desserts à travers tout Bruxelles. Et j'étais vraiment admirative. Donc, t'as eu beaucoup de commandes, en fait
Oui, j'ai eu beaucoup de commandes. Le premier jour que j'ai dû mettre ça sur Facebook, déjà, il y a eu d'autres déjà qui m'ont déjà demandé. Ils ont commandé. J'ai eu pas mal de commandes. Et aujourd'hui aussi, j'en ai eu aussi. Donc, hier, j'en avais eu, mais je n'ai pas livré parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais j'ai eu beaucoup de commandes quand même.
Ouais, c'est chouette. Maintenant que tu nous as fait envie, dis-moi, comment est-ce qu'on peut te trouver pour commander des desserts? Comment est-ce qu'on peut faire?
Pour commander le dessert, c'est d'appeler dans mon numéro. Je vais pas donner mon numéro quand même.
Mais... Je te propose quelque chose. On peut peut-être relier ça sur la page Facebook des quenouilles, ouais. En disant aux gens d'envoyer un message privé aux quenouilles. Et comme ça, toi, tu peux recevoir les messages sans tant devoir donner ton numéro.
Oui, c'est mieux comme ça. Après, voilà. Et puis moi, je le fais. Je dois d'abord voir s'il y en a ceux qui veulent commander. Et puis, je le fais en même temps. Parce que je ne peux pas faire et puis laisser au frigo. Et puis, c'est du gâchis. Donc, si ça reste plus que 4 jours, 5 jours, ça va se gâter. Et puis, l'argent, c'est parti, quoi. Donc, d'abord, la personne veut... Elle commande ou il commande, et puis je le prépare la nuit ou bien le matin, et puis je livre ça. Si la personne veut, peut venir aussi chez moi. Mais moi, pour me déplacer, je dois aussi voir combien de pots tu veux. Parce qu'il y en a 2 euros, si c'est 2 pots, ça fait 4. Si c'est 5 euros, 2 pots, ça fait 10. Là, je peux livrer. Donc, en plus aussi, plus 50 centimes parce que c'est le transport. Donc, je ne peux pas livrer gratuitement. Je livre, en même temps, j'ai un peu de... Je bénéficie un peu quelque chose. Donc, c'est comme ça, quoi.
Ben, merci, Teresa. Merci à bientôt pour de nouvelles aventures quenouilles.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Bon, c'était Quenouille Teresa et Quenouille Aliette. Et donc, Quenouille Teresa qui donc, a lancé son petit business en attendant de pouvoir sauver des vies, puisque c'est un peu ça le but. Mais sauver les vies par la bouffe, on peut en parler aussi, non?
Avec plaisir.
En tout cas, moi, je peux vous dire que la bouffe de Teresa, elle sauvera pas mal de vies, quoi, parce que son petit dessert, il est délicieux.
Alors, après avoir été en contact avec un expert dans la pièce dans laquelle je vis, il s'avère que ça doit être le tiakri. Le tiakri, c'est donc du mil avec du yaourt mélangé, du fruit, etc. Mais si on ne mélange pas le yaourt avec, alors c'est du lard. Et lard, c'est le mot wolof, mais c'est le mot pour dire que c'est le mil d'un côté et après, on rajoute un peu ce qu'on veut, etc. Enfin, voilà. À vérifier avec Teresa, mais...
Je pense que c'est le tiakri.
Ouais, mais le tiakri, c'est bien le matin, c'est bien le midi, c'est bien le soir. Vive le tiakri, quoi.
En tout cas, ça fait envie, hein, franchement.
Ouais, bah, c'est clair. Bon, bah, quenouille Justine, alors. Hein, du coup, je t'annonce.
Merci. Les quenouilles, bah, après Circé, après les pleurs des hommes et après Teresa et ses recettes magiques, moi, je voulais vous parler d'un morceau avec des paroles très connues des 50s. Et donc ici, c'est parti, je démarre. Un soir d'automne 56, Jay Hawkins est screaming dans le studio. L'estomac plein, Marie, travers de porc et poulet dans l'alcool. Arnold Maxine, le producteur, a régalé tout le monde et tout le monde est torché. Hawkins gueule dans le micro. C'est le miracle éthylique. Vient le bébé du blackout aux accents cannibales. La petite balade prévue chez Grand Records un an auparavant mais jamais diffusée. Ressuscite sans les nuages du blues dans la gorge d'un fou. Ça grogne et ça gémit dans une belle sauvagerie. Les radios n'en veulent pas, tant pis, l'Amérique apprécie. 1 million d'exemplaires couronnent la bête de scène qui fait dans l'ironie, revoit sa panoplie pour l'amitié des crânes, pour un os sous le nez, pour une cape sans épée, pour la gloire d'un cercueil qui parfait ses entrées. Jeter un sort. Un titre possédé, 313e au rang des plus grandes chansons de tous les temps. Un amour de vaudou ou d'éperdu cinglé. Que Simone, comme bien d'autres, aura aussi chanté. Presque 10 ans plus tard, les cordes et le piano et la voix de Nina passent le baume romantique. Pourtant, les mots demeurent, et dessous la folie. Revenons à elle alors, dans la bouche de Screaming, à la version classique. C'était en 58.
I
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Your mind, parce que tu es à moi. Les notes bien grasses et bien raclées sont excellentes, c'est vrai. Et on l'aime, cet écho trop terrible à la vie pleine de bleu, aux amours tout foutus, à la rage conjugale. Je me fiche que tu ne veuilles pas de moi. Je suis à toi maintenant. La parole est métal, l'âme sans larmes pointe de mal. Mais sans le sarcasme de Jay, sans la peau noire des notes, c'est l'aveu blanc, tranchant, du pauvre dominant. C'est le programme du sentiment morbide et des exécutions rapides. C'est la main invisible et son sable marchand, et ses peines imposées, capitales. Je t'ai jeté un sort. Je vous ai jeté un sort. Je, quand on y pense, pourrait donc se griser dans l'abstraction système, dans le visage panoptique, immense et impossible. Le sort n'est plus d'amour, jeté sur nous comme une loi nécessaire. L'hégémonie sourit pendant qu'elle nous retient, pendant qu'on se croit lucide en accusant le coupable sans désigner personne dans tous ces gaz de chiffres et de testostérone. Notre sort nous machine une fausse réalité, le fatum conditionne, on crie dans l'aporie, déchiré par l'histoire, pressé contre l'emploi et dans la nécropole. Le monde berce une laideur maquillée en progrès. Les petits dieux du massacre à la tête d'entreprise rigolent comme des cochons à la table des pions. Ça, c'est les vrais sauvages. Ils se défendent des jungles en retournant la terre, en bouffant l'atmosphère. Je vous ai jeté un sort. On se débat comme on rêve au spectacle du monde. La morphine est d'image, et on se shoote sans bouger. L'écran est une fumée où le sang est montré, où l'actualité vibre des corps couchés, où l'être est une flaque qui ne peut plus respirer. On exhibe l'asphyxie d'une minorité, le scandale gargarise tant qu'il réduit les autres, tant qu'il salit les mêmes. Que fait-on de la preuve répandue comme la pisse qu'en 9 minutes arrache l'homme à sa dignité? Le monde est un merdier où nos yeux virtuels sont des mouches tsétsées, où les privilégiés vont servir les premiers, où tous les opprimés frottent leur lucidité. Il faut les écouter, là-bas, ici, partout. Il faut s'exorciser en les laissant crier. George Floyd est debout, et avec lui tant d'autres. Les lucidités chantent, les stigmates ironisent et se retournent dans des cœurs. Jay Hawkins n'est pas loin. Il crie d'un temps d'avant, pourvu que l'amour change, pourvu qu'on ne jette plus de sort, seulement sur des accords, juste dans la musique.
Merci Justine pour ce texte écrit dans une perspective de revenir à quelque chose ou d'aller vers quelque chose, avec des temporalités ici que tu as pris comme charnière avec enfin, je me permets d'insérer quelque chose dans ton texte et parlons-en en fait, mais
oui,
voilà, avec le nom de George Floyd en fait, hein, qui est, mais tu as dit aussi de tous les autres, et voilà.
Oui, c'est moins, voilà, c'est moins de faire un héros, c'est plutôt de réactiver, on va dire, un nom pour une mémoire immédiate, mais effectivement, il s'agit aussi de problématiser les choses dans un environnement qui est plus proche de nous, puisque nous, on est en Europe, on n'est pas en Amérique. Mais de dire aussi que ces questions-là, les questions raciales et ces questions de ségrégation et de violence concernent aussi ben, les gens qui sont tout proches de nous, par exemple le cas d'Adil assez récemment, entre autres.
Oui, alors Wetsi, tu veux intervenir ici, parce qu'on a un petit peu parlé avant.
Oui, tout à fait. Et pas plus tard que, ben, en fait, il y a une manifestation qui est organisée ce lundi, pour manifester de manière pacifique pour George Floyd. Et en vérifiant un petit peu qui est derrière l'organisation de cette manifestation, on se rend compte que ce sont des associations de blancs, d'hommes, et qu'en plus, ils ne parlent absolument pas des violences policières, ils ne reconnaissent absolument pas les violences policières qui ont lieu ici de manière journalière. Et en plus, ce sont des personnes qui se positionnent contre les émeutes qui ont lieu en ce moment à Minneapolis. Donc, moi, je trouve que ce genre d'événement, c'est tout à fait symptomatique des problèmes qu'il y a dans la société, dans le sens où les luttes des Noirs sont systématiquement reprises et dénaturées. D'un côté, on condamne les manifestations de colère alors qu'elles sont tout à fait légitimes. Et que ce qui n'était pas légitime, c'était la violence, ce sont les crimes policiers finalement. Et d'un autre côté, ici, un groupe de blancs finalement récupère cette lutte et la met vraiment à sa sauce en disant « nous, on condamne les manifestations de colère ». Donc je trouve que c'est tout à fait en lien avec le sujet du mois dernier qu'on avait un petit peu renié aussi et qu'on voulait reprendre finalement. Où je reprenais un texte d'Aimé Césaire que j'avais entendu en fait dans un film de Sarah Maldoror. Sarah Maldoror qui est donc une cinéaste assez incroyable, une cinéaste militante qui était mariée elle-même à un autre cinéaste réalisateur de films angolais avec qui elle a parcouru le monde, avec qui elle a fait des films documentaires dans lesquels c'était des films militants. Et dans le film dont je parle, c'est « Et les chiens se taisaient ». C'est un film qui a été filmé donc dans les caves du Musée de l'Homme à Paris. Et je vais vous proposer d'en écouter un extrait et vous allez vraiment entendre. En fait, c'est vrai que Aimé Césaire, le mouvement de la négritude, a priori, je ne suis pas forcément fan. Je suis fan de la poésie, mais je ne suis pas forcément fan de ce que le mouvement représente, parce qu'il représente aussi un petit peu, pour certaines personnes, et souvent à juste titre, ceux qu'on appelle un peu de manière péjorative les nègres de maison, c'est-à-dire ceux qui prêchent, comment expliquer
l'alliance, hein.
Voilà, c'est difficile d'expliquer cela tout en restant respectueuse et c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, parce que...
Tu veux respecter qui, Wetsi? Vas-y. Hein.
Je veux respecter le souvenir d'Aimé Césaire, puisque en plus, je vais vous faire écouter un extrait d'un de ses poèmes. Mais en fait, il y a des personnes qui confondent les luttes, qui confondent les causes et qui soit par lâcheté, tout simplement, choisissent le camp du plus fort ou choisissent de toujours rester dans le respect du camp du plus fort au cas où. Alors que la réponse face à tant d'injustices ou face au fait que la société dans laquelle on vit finalement a rompu le contrat envers nous, envers les personnes racisées. Et la rupture de ce contrat se manifeste dans, par exemple, l'utilisation légitime de la violence par la police envers des personnes de couleur, simplement parce qu'elles sont de couleur. Et le fait que cette violence-là soit aussi légitimée dans la société fait qu'après, la violence, on la reçoit de partout, pas seulement de la police, mais simplement de ma voisine qui, consciente du fait du rapport que moi je peux avoir avec les autorités, avec la police, par ma couleur, va aussi l'utiliser. C'est ce qu'on a vu avec la vidéo qui a été virale à Central Park. Mais ça aussi, c'est des vidéos qu'on a, qui sont présentes aux États-Unis et qui sont virales et qui traversent le monde. Et donc, en Belgique, par exemple, ça va conforter une certaine partie de la population du fait que ça n'arrive qu'aux États-Unis et qu'ici, tout va bien. Or, c'est faux. Ici, tout va pas bien et ce sont des réalités qu'on vit aussi aujourd'hui. Et ben, je vous propose d'écouter maintenant cet extrait du film de « Et les chiens se taisèrent ». En fait, c'est un dialogue entre le rebelle et sa mère. Et le rebelle, lui, il exprime sa colère. Et en fait, c'est juste ça que je trouve beau aujourd'hui. Et c'est cette invitation que j'ai envie de faire à tout le monde, homme, femme, personne racisée ou non. C'est cette autorisation d'exprimer sa colère et de ne juste pas rester à sa place parce que ben, c'est pas juste.
En nom aux Français. Mon prénom humilié. Mon état révolté. Mon âge, l'âge de la pierre.
Ma race, la race humaine. Ma religion, la fraternité.
Ma race, la race tombée. Ma religion, mais ce n'est pas vous qui la préparez avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte et mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute. Je me souviens.
Alors, comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'ensorcellement, et que ce film a aussi été filmé dans les caves du Musée de l'Homme, moi, je voudrais aussi revenir sur cette notion d'ensorcellement. Dans la société capitaliste actuelle, et on le sait, le pouvoir est exercé avant tout sur les femmes, et puis ensuite, les peuples non blancs ont été associés aux femmes, et à la nature. Il y a toute cette association qui fait qu'on se permet une certaine domination sur tous ces corps. Et la nature est en train de reprendre le dessus. Il y arrivera un moment où la nature reprendra le dessus. Et il arrive aussi un moment où les masques et où les cultures considérées comme subalternes reprennent le dessus. Et je prends juste une petite anecdote. À la réouverture du musée de Tervuren en 2018, il y a déjà presque 2 ans. Il y a eu plein de problèmes d'inondations dans les caves. Ils ont dû faire la réouverture en bloquant l'accès aux toilettes parce que il n'y avait rien qui fonctionnait et les pompiers ne pouvaient pas expliquer pourquoi, d'où venaient les problèmes. Et certaines personnes ont émis l'hypothèse assez juste, je pense, que peut-être que les masques... et les ancêtres enfermés dans toutes ces réserves et toutes ces expositions reprenaient un petit peu le dessus. Et moi, j'ai envie aussi d'encourager les personnes racisées comme moi qui vivent dans cette société de blancs finalement, à majoritairement blanche, à se réapproprier cette féminité, à se réapproprier son rapport à la nature, à se réapproprier son rapport à sa culture d'origine et à pas accepter le dénigrement parce que c'est par là que la justice pourra un jour s'exprimer de manière plus globale.
Merci aussi de parler en fait, oui c'est ça, de l'assujettissement en fait, hein, de la,
tout à fait.
D'une force en fait qui se dit dominante mais qui n'est dominante que par une théorie bien trop ancienne. Donc il est temps que nous soyons les météorites sur ces dinosaures. Et je parle d'un nous politique, hein, je parle d'un nous femme, d'un nous allié,
oui, quand on est blanche,
d'un nous voilà, d'une. Il est temps de passer à autre chose, hein, comme on parle de narration. Et je voulais justement, en écho à ce que tu viens de dire, évoquer 2 travaux en cours d'ailleurs. C'est un collectif qui s'appelle le collectif Case Rebelle, qui fait un travail vraiment incroyable en termes de cinéma, avec un film documentaire qui s'appelle Dire à Lamine, considérant que la parole de la sœur de Lamine Dieng, qui est une des victimes de la violence policière en France, a pu aussi, à travers sa parole et son combat, retracer en réalité les narrations de plein d'autres sœurs, mères, frères qui n'ont évidemment pas toujours eu la possibilité de s'affirmer dans la parole publique pour plein de raisons, bref. Ou comme Assa Traoré, bien sûr, qui a, encore une fois, hier, par exemple, a fait une déclaration sur la nouvelle, sur le nouveau, comment on appelle ça, rapport sur la mort de Adama Traoré, qui est de nouveau en train de parler de sujet noir ou de race noire, je crois que c'est le terme qui a été employé. Voilà, donc la lutte est longue. Et donc, quatre forces majeures, c'est une première chose, c'est Remedium, c'est un bédéiste qui retraverse en fait, qui contextualise pas, mais qui retraverse la manière dont les personnes sont tuées. Donc les BD sont très bien parce qu'elles disent en images, avec très peu de mots, comment ça s'est passé en fait, hein, à travers le récit, évidemment, en général pas évidemment de la police, mais des personnes d'à côté. Et puis voilà, Collectif Case Rebelle, qui fait aussi un travail, qui a fait un magnifique livre, un recueil de 100 portraits de victimes de violences policières, et on les mettra, que nous, Roxane, je croyais sur le coup, pour les mettre sur la page Facebook, comme ça vous pourrez faire des liens vers ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Merci Wetsi.
Donc c'était la chanson qui est tirée du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui est un film magnifique qui est sur le top de ma pile de films à voir, mais je sais qu'il est magnifique, j'en ai tellement entendu parler, notamment en termes de regard qu'il pose sur le féminin, sur le corps féminin, sur le désir féminin, et qui enfin un regard de femme est à la hauteur de ça. Mais je voulais surtout vous passer cette chanson-là que je trouve magnifique parce que la phrase qui est dite en latin et qui est répétée en boucle, c'est en fait une traduction d'une citation de Nietzsche qui veut dire « Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. Et c'est à la fois un avertissement, mais je trouve aussi une forme d'espoir. Voilà. Et je te laisse la parole, Roxane.
Magnifique, merci. Pff, quelle belle phrase, quelle belle chanson. Encore un film à voir, magnifique. Ah, c'est bon, les quenouilles, de partager, d'échanger, de faire circuler. Moi, je suis revenue à mes classiques. Ensorcellement, évidemment, Starhawk est apparu direct. Je me suis dit, ah oui, quand même, la petite définition très simple qu'elle donne de la sorcellerie m'a quand même paru assez merveilleuse à mettre en pratique rapidement. Puisqu'elle raconte, elle, que pour elle, la sorcellerie, ce serait donc un art de transformation. Et ce serait en fait l'art de transformer volontairement la conscience. Ah, je ne sais pas, je trouve ça magnifique, c'est très court, c'est très simple, ça retire de la magie, mais ça rajoute du réel, comme si ça, ouais, ça redonne du pouvoir d'action, hein, ce qui est tout son propos. Donc, c'est possible de changer le monde, ça ne tient pas du fantastique, et la magie est donc accessible à qui veut y croire et retrousser ses manches. Magnifique. Donc concrètement, par exemple, par des rituels ou des actions politiques, au hasard. Du coup, ça m'a fait rebondir sur une petite expérience de la semaine passée, la vendredi. Vendredi matin, midi, où le monde des arts, ici à Bruxelles, il a vraiment été pour moi ensorcelé. J'ai vécu, ça m'a fait un bien incroyable. je réexplique un peu le contexte, il s'agissait de manifester pour la place de l'art dans la société, pour résumer très fort. Mais bon, ça aurait pu être pour n'importe quelle cause presque. Ce qui était beau, c'était l'acte vraiment de se rassembler dans une action symbolique porteuse de sens. Bon, là, c'était l'enterrement de la culture par les artistes et ceux qui soutiennent évidemment l'art en général. Et les artistes se sentent un peu déconsidérés, vous l'aurez sans doute entendu autour de vous, sur les médias sociaux, machin truc. Mais alors, ce n'est pas juste les artistes, à mon sens, c'est parmi les gens qui rêvent de réinventer le monde, que ce soit de leur pratique, mais aussi en général. Et donc, en me baladant, j'entendais des réflexions que je livre un peu tout en vrac, mais qui parlent de la culture, mais pas que, évidemment, puisque c'est peut-être un laboratoire où se concentrent des choses qui concernent tout le reste du monde. Il y avait cet endroit, je sentais d'envie d'ouvrir la culture au tout venant, que tout le monde est artiste, qu'il faut arrêter de cloisonner les institutions là, dans leur tour de cristal où le pouvoir peut s'exercer. Puis il y a évidemment toute cette précarité, il y a une forme d'uniformisation, il y a le cumul des mandats. Et puis, où est la spontanéité créatrice, puisqu'il faut au moins 2 ans pour monter une production, comment encore être vivant dans toute cette administration. Et bien sûr, partout, le règne de la rentabilité, du nombre, qui va être bien mis à mal par le problème des places dans les salles de spectacle avec la distance sociale, on en reparlera. Puis bon, voilà, la marchandisation en général, le patriarcat bien ancré, évidemment, la virtualisation qui pose quand même de grandes questions. Moi, je suis plutôt dans le théâtre, donc c'est pas tout à fait dans nos cordes. Bon, la mondialisation en général, bref, ça m'ouvre, moi, des abîmes de réflexion. Mais pour en revenir à l'acte proprement parlé de sorcellerie, là, de vendredi, donc c'était en gros la consigne, toute personne voulant soutenir la culture comme ayant une place prépondérante dans le fameux monde d'après, était invitée à se rendre au Mont des Arts, à pied ou à vélo, en partant de chez lui à 10 heures, en tenue de deuil, munie d'une fleur rouge ou d'un objet évoquant symboliquement une œuvre affublée du mot « annulé ». Ces derniers, tous ces objets, ces fleurs, seraient déposés devant une sorte de pierre tombale symbolisée au bien nommé Mont des Arts. Mais qu'est-ce que j'ai adoré traverser la ville sous de la dentelle noire de pleureuse avec ma fille sur mon porte-bagages, sur mon vélo, reste de confinement oblige, et puis croiser des personnes connues ou inconnues, mais tout aussi toute vêtue de noir comme moi, donc on pouvait se reconnaître, c'était rigolo, on dit « Ah, on va au même endroit enfin, !» Et puis voilà, on se retrouvait, ça convergeait comme ça. Bon, je suis sortie de ma commune pour gagner le centre, ça ne m'était plus arrivé depuis 2 mois et demi quand même. Je réarpentais ma ville, quoi. Il y avait un truc de libération. Et puis surtout quand même vraiment sentir converger toutes ces personnes animées d'un même élan, ces énergies de deuil, mais en même temps assoiffées de renouveau. Et alors arriver à la place. Voilà, au Mont des Arts, arriver à la place royale et voir le Mont des Arts et la vue plongeante sur Bruxelles et ce fourmillement presque oublié des regroupements dans l'espace public. C'était une hallucination. Bon, l'invitation disait bien qu'il fallait circuler, il fallait surtout pas s'arrêter, on devait juste poser notre offrande et voilà, pour rester dans les clous des législations actuelles, n'est-ce pas ? État d'urgence sanitaire oblige, comme ils disent. Mais bon, comment ne pas rester à contempler la vue le tapis d'offrande à la culture sacrifiée, et bien sûr saluer tous ces visages retrouvés, les collègues, les amis, des vagues connaissances, de peut-être futurs employeurs, enfin tout le monde était là, mélangé, tout le monde voilà, un peu euphorique, un peu surpris avec ce confinement tout à coup qui paraissait loin. C'est assez merveilleux, ça, je trouve, comme le déconfinement offre des premières fois. Là. Il faudrait célébrer chaque première fois toutes les choses qu'on regoute et voir comment les honorer avec leur part d'inédit, comment les orienter le plus possible vers l'inédit, justement. C'est un défi de chaque instant. Hein. Moi, je trouve ça vraiment pas facile, mais j'essaye, en tout cas, au moins d'être consciente le plus possible, tant sur le plan de l'intime que du collectif, du sociétal, du politique, du climatique. Bon, hein. Non, je t'ai plus. On sait, mais quand même, tenons bon. Testons, tentons. Et là, voilà, vendredi matin, c'était joyeux, c'était ludique, c'était vindicatif, c'était beau, avec ce pas de retour à la normale, le slogan qui paradait en grosses majuscules rouges, chacune portée par une personne masquée, surtout l'apostrophe, évidemment, capitale pour saisir tout l'aspect anormal de l'ancienne norme que d'aucuns voudraient retrouver au plus vite cette ancienne norme. Hein, alors que, bon, j'ai envie de dire, anormalisons. Ouvrons les possibles, profitons des brèches pour renouveler, que les mauvaises herbes explosent enfin l'asphalte. Ensorcellement de l'imaginaire, changement volontaire de la conscience individuelle et collective, changement volontaire, oui, c'est possible. Sortons tous nos baguettes magiques, nos balais et nos chaudrons, il y a du pain sur la planche. Ensorcelons, encore. Oui. Et vous les filles, ça vous ensorcelle?
Merci Roxane. En tout cas, moi, d'avoir vu la vidéo sur Facebook, c'est ce côté processionnel, en fait, tu vois, qui resacralisait, en fait, hein, les corps, bien sûr, comme tu l'as dit, avec ce confinement éventuellement loin, alors qu'en fait, on n'est pas vraiment sorti de l'affaire. Et donc, le côté processionnel m'invitait, en fait, tu vois, quelque part, même si j'y étais pas. Mais voilà, ça m'invitait à être avec le fait qu'il y ait ces cortèges, etc. Et puis ce monde des arts qui, bien sûr, porte mal son nom puisqu'il n'a jamais autant été désartisé. C'est comme cette alliance bizarre du métro art et loi, tu vois, qui m'a toujours paru d'une absurdité absolument totale. Enfin voilà, en tout cas, moi, j'aimais voir ça et j'aimais aussi cette idée d'enterrer, mais comme un enterrement, comme ce qu'on appelle l'apocalypse, tu vois, qui est un passage d'un monde à un autre. Et je ne crois pas à l'après, personnellement, on pourrait en reparler dans une autre émission si un jour le mot après tombe, le mot après m'agace, mais en tout cas j'aimais l'idée d'enterrer quelque chose, et en effet il y a des modalités, et pas juste financières, on le sait, parce que là il n'y a plus le choix en fait, hein. Je connais au moins 5 personnes autour de moi qui sont dans une précarisation totale du fait, même en ayant le statut soi-disant d'artiste, en fait chômeur bûcheron, et d'être dans des rapports tout à fait... inégaux par rapport à, encore une fois, et là c'est une critique et je ne parle qu'en mon nom, des personnes qui ont pris la parole soit sur les médias, etc., qui sont des gens en fait qui sont déjà directeurs, déjà directrices. Voilà, ça m'a un peu saoulée qu'il y ait à la fois cet engouement collectif et à la fois des paroles en tout cas relayées par des personnes qui en fait, à mon sens, ne vont pas vraiment être dans les premières lignes, cher Akanon, de ceux qui sont déjà en train de souffrir, en fait, le mot est là.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, voilà, cet ensorcellement, j'espère qu'il va agir par la base et que cette base, elle va réinventer, puisqu'on est dans un rapport de création réinventé. Et je parle ça en tant qu'artiste, même si moi, j'ai la chance d'avoir un salaire pour le moment, mais voilà. Donc, ça m'a à la fois fait du bien de voir et à la fois, j'ai eu du mal à entendre autour des voix.
Toujours les mêmes.
Ouais, c'est ça, qui n'était pas satellitaire, hein, mais voilà. Octa, tu veux intervenir?
Oui, non, la question de la prise de parole en ce moment, elle est, en tout cas dans le milieu de la culture, elle est très compliquée, je ne vais pas m'étendre, mais et ça a été beaucoup, notamment au sein du collectif F, qui a la représentabilité qu'elle peut, mais représentativité pardon qu'elle peut, mais et c'est beaucoup, on retrouve des hommes blancs directeurs effectivement. La dernière, il y a eu une chose quand même qui a été flagrante. En fait, cette procession au Mont des Arts, elle a été faite parce qu'en même temps, il y avait des auditions à la Chambre, et il faut quand même savoir que la première liste de personnes auditionnées choisies, qui a été décidée par les partis, c'était que des hommes, que des blancs, quelques femmes. Et puis, du coup, il y a eu un gros râlage, et du coup, ça a été changé. Mais les personnes, enfin, il y a eu un shuffle en fait, au sein des personnes déjà les plus fragilisées. Ah oui. Donc oui, il y a eu plus de femmes, c'était chouette, Mais par exemple, enfin voilà, les techniciens qui étaient représentés par une personne ont été virés, alors que parmi les deux directeurs de théâtre d'institution qui étaient présents, il y en a un qui avait accepté de se désister. Il a été remis. Enfin, c'est, enfin bon, bref, on fait ce qu'on peut, mais faut rien lâcher.
Ouais.
Faut vraiment rien lâcher au niveau de la représentation.
Et on en parle sur Radio Panique pendant les quenouilles. J'avais envie de faire ça depuis des années, je pense, de dire d'avoir cette espèce de voix bizarre à la Drucker. Et donc. Là, on met un peu de musique. Ok, ben on y va alors. Merci.
Voilà, c'était un extrait des chants cryoniques de Scott Gibbons et Chiara Gaidi. Et je voulais juste dire un mot parce que, Lexi, tu disais que c'est très beau ces voix, mais c'est surtout c'est très beau cette langue qui n'existe pas. Qui, juste pour la petite précision, elles ont voulu créer la langue de la tragédie. La langue de la tragédie, c'est la langue du bouc. Et donc, elles ont vraiment demandé à une chèvre de choisir les sons qui sont prononcés. Et elles en ont fait ces chants que je trouve extrêmement forts. Dans une prochaine émission, je parlerai de l'importance de réinventer ces chants et ces mots et de leur donner de la nouvelle puissance. Je vois Wetzi qui se marre. Du coup, j'ai du mal à garder mon sérieux. Mais donc, on voulait garder du temps pour l'actu de la semaine. Et donc, je te passe la main et la voix, Wetzi.
Et Wetzi, je te coupe la parole. C'est juste pour dire que je voulais parler de l'osolalie et que c'est exactement ça, en fait. C'est d'être imprégné d'une langue qui ne nous appartient pas. Et donc, voilà, c'est un acte. La glossolalie a fait partie des procès contre les sorcières. On accusait les femmes de parler d'autres langues quand elles étaient en crise suite à des viols, des violences, etc. Et elles parlaient des langues que soi-disant nous ne comprenions pas, enfin, que les dominantes parlaient, ne comprenaient pas. Et donc, elles ont été accusées de glossolalie. Et donc, chez beaucoup de sorcières modernes, on reprend l'idée d'une langue inventée ou qui réinvente le corps pour être sûr que personne ne doive nous comprendre. Voilà, et donc je trouve ça parfait pour ça. Excuse-moi, Wetzi, mais voilà, je...
Non, mais pas de souci. J'adore le concept. J'ai été prise en fou rire à l'idée de la communication avec les chèvres, mais j'aimerais bien en faire. Alors moi, mon actu, l'actu dont je voulais vous parler, c'est une série de podcasts qu'on a déjà commencé à produire avec le Centre culturel de Strömbäck. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais donc le Centre de Strömbäck. Alors, par où commencer? Le 20 mars dernier aurait dû avoir lieu le vernissage d'une exposition qui s'appelle True Her, True Her, à travers elle et le véritable elle, dont j'étais co-curatrice avec Pascal Obolo. Moi, j'avais sélectionné un peu plus d'une dizaine d'artistes femmes afrodescendantes à montrer leur travail, et c'est la première fois qu'une telle exposition a lieu en Belgique, dans une institution avec donc un soutien financier de l'État. Cette exposition est reportée à janvier 2021, mais pour garder en contact avec le public et parce que cette année 2020 est aussi le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, et d'autres pays africains d'ailleurs, on va également produire une série de podcasts sur le thème qui est aussi le thème de l'exposition, c'est sur l'effacement de diverses personnes dans les récits mainstream et dans ce cas-ci dans les récits de résistance autour de la colonisation ou de la lutte des personnes racisées en général. Et donc, cette série de podcasts, qu'on est encore en train de produire, vous pourrez les voir et les écouter sur le site internet du Centre culturel de Strömbäck, ccströmbäck.be. Ce sera également en ligne sur le site de Radio Campus et sur différents partenaires, dont le site de Afro vs City. Et je vous annonce également que le thème de la prochaine émission, le mois prochain, ce sera ensorcellement numéro 2, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour tout vous dire ce mois-ci. Put a smell
on you. Salut les quenouilles, on coupe vite, mais on se retrouve très vite.
Salut les quenouilles.
Salut les quenouilles. Bon, salut les quenouilles. Au mois prochain, on sort seul en You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Thank you.
spell on you. Because I'm in bandy, I'm better than